peloton. Sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Julien Ribaud est compositeur de musique de film et artiste visuel. Il a un super pouvoir, il voit la musique en cercle, en carré, en ligne, en triangle. Et sur la pochette de son dernier album « Do You Feel Nine », il s'est dessiné avec de grands faisceaux sortant de ses yeux, de grands rayons lumineux d'un vert martien. Avec sa musique colorée et sensorielle, Julien Ribaud nous rappelle que nos yeux et nos oreilles sont intimement liés. Julien Ribaud est notre invité dans cette émission Nous flottons et nous allons parler de composition musicale, du son, des soucoupes volantes, d'œufs fécondés et de liberté. Bonjour Julien.
Bonjour Aline.
Tu nous accueilles chez toi, nous sommes à Paris. Et Julien, j'ai découvert en fait ton travail au FIPADOC, au Festival International du Film Documentaire à Biarritz, qui a lieu chaque année.
Oui.
Tu as reçu le prix de la meilleure musique originale pour un film documentaire réalisé par Louis Anquet, qui s'appelle Un pasteur.
Un pasteur, on
suit un berger, Félix, dans les alpages avec ses brebis.
Mmh.
Et au cours de la cérémonie de remise de prix, en fait, tu as partagé ta façon de composer la musique. Et ce qui m'a interpellée et donné envie de te rencontrer, c'est que tu disais qu'en fait, toi, tu visualises la musique.
Oui.
Et en effet, tu as pu montrer tes carnets de composition, qui ne sont pas du tout des partitions. On ne voit pas de notes. On voit que des schémas, des croquis, des dessins encore colorés. En plus, et je me suis dit, est-ce que tu as un compositeur peintre?
Alors j'ai fait une école de dessin. Le premier moyen d'expression, c'est la musique, parce que j'ai commencé par le piano et le dessin est venu plus tard. Mais quand on lit beaucoup, là, j'adore lire les biographies par exemple, là, en ce moment, je lis une biographie, enfin pas une biographie, mais un livre sur le travail de David Cronenberg et de Howard Shore, qui sont compositeurs principal. En fait, il parle tout le temps de ça en permanence, c'est-à-dire des liens entre l'image et la musique. Et il y a tout le temps cette phrase que disait aussi Bob Wilson ou Philip Glass, on voit la musique et on entend l'image. Enfin, il y a toujours un lien de vase communicant entre... Alors, dans le cinéma en particulier, parce qu'effectivement... Et moi, je sais que j'aime bien envisager la musique un peu... Pas comme un... Oui, comme un dessinateur, c'est-à-dire vraiment comme voir le schéma, par quoi j'aime bien toujours conceptualiser, quitte à ce que le concept ne marche pas, tant pis, c'est pas grave, mais j'aime bien avoir une idée précise avant de commencer la musique d'un film, de l'envisager plastiquement, effectivement, en forme de cercle, en forme de triangle, de carré, peut-être ça va être des lignes qui vont superposer, il y a mille manières de... Là, par exemple, pour le film de Louis Anquet, j'ai fait une musique, j'avais jamais composé ce genre de musique avant, c'était une musique comme ça se passe dans la montagne, donc un paysage très abrupt, et très des montagnes, des plains, des vides, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire une musique aussi qui s'arrêtait, le silence, on entend le bruit du vent, hop, la musique reprend, le thème reprend, etc. Donc une musique entrecoupée comme ça, comme ces paysages de montagne très, je cherche le mot, mais...
Oui, la musique ne prend pas forcément... toute la place dans le film, mais il y a aussi le son du paysage des brebis,
l'occurrence,
on parle de troupeaux dans les alpages qui reste là. Quoi.
Exactement, dans un film, de toute façon, c'est la voix, le son, la musique, l'image, donc tout ça. Et j'envisage beaucoup la musique comme un deuxième film, en fait, c'est un autre film, mais j'arrive pas à l'imaginer comme vraiment de la musique. Pour moi, c'est une image sonore, quoi, la musique, qui va apporter un autre sens au film et avec lequel le réalisateur doit jouer. Et lui, justement, il voulait que quand il y ait de la musique, il y ait vraiment de la musique. C'est-à-dire que quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Mais de toute façon, son film est extrêmement musical, et ça c'est parce que le bruit des cloches, effectivement, du troupeau, le vent, etc., c'est tellement un univers sonore et très très riche que, et finalement, il n'y a pas besoin non plus de... Et la musique, on m'a dit qu'effectivement, on a dépeint ce film comme un film très sensoriel, où la musique va, vient, se fond, mais voilà, j'aime bien l'idée d'image sonore, d'image musicale, parce que c'est vraiment ça, c'est une sorte de sous-texte, pourquoi faudrait dire sous de... L'autre fois, ça me fait penser à un truc. J'ai écouté une interview de Philippe Sard, qui est un super grand compositeur de musique de film aussi. Et lui, il regrettait un petit peu aujourd'hui. Moi, j'ai eu le même sentiment qu'on a toujours un petit peu peur. Alors, peut-être qu'on est plus dans une société d'image que de musique. Mais les réalisateurs ont souvent peur que la musique mange leur image. Alors que moi, j'ai toujours l'impression que c'est au contraire. Ça peut que apporter quelque chose et il n'y a pas de concurrence en fait entre les deux. Il n'y a pas une concurrence entre
l'image et la musique.
Au contraire, ça se complète, ça se sublime, ça amène encore une autre manière de raconter l'histoire, et donc il n'y a pas de concurrence en fait entre les deux.
Et au niveau de toute ta palette sonore et puis des sons qui t'inspirent, on retrouve des instruments à cordes, à vent, mm-hmm. on peut retrouver aussi des sons électro, on peut mm-hmm. aussi avoir dans tes musiques parfois des chœurs d'enfants. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'inspire au niveau de la matière première pour composer ensuite tes musiques ?
Alors, pour continuer sur la musique de film, par exemple, ça dépend du projet. Par exemple, là, ça se passe dans la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence, donc j'ai pensé tout de suite, évidemment, aux instruments traditionnels du berger, quitte à pas les utiliser, mais un instrument que j'aurais jamais utilisé parce que il a quelque chose d'un petit peu kitsch comme ça, c'est la flûte de Pan. Mais le Pan lié à la mythologie du berger, donc j'ai utilisé des flûtes de Pan basses, très pour faire plutôt comme une sorte d'ambiance sonore, donc une sorte qu'un peu comme le bruit du vent. Une musique très minérale aussi, donc le lithophone, qui est un xylophone, mais fait avec des pierres. Donc en frottant le lithophone, on peut avoir des sons très particuliers, etc., etc. Pour le film précédent, qui est un film de Joanna Grudzinska sur une poétesse polonaise. Qui s'appelle « Tout de moi ne disparaîtra pas ». Alors, un instrument que j'aurais... C'est souvent l'idée du film et comment je réfléchis autour qui va m'amener l'idée de l'instrumentation et et par exemple la guimbarde, un instrument qui est plutôt relié à peut-être ou dans les films d'Ennio Morricone, les cow-boys, etc. Mais la guimbarde, je me suis rendu compte que c'était le seul instrument qui utilisait, on parle d'une poétesse, donc le palais, la résonance de la bouche en fait. Il n'y a pas d'autres instruments qui utilisent donc la guimbarde. Donc j'ai mélangé cette guimbarde, qui a priori est un instrument que j'aurais jamais pensé utiliser, mais c'est venu des réflexions autour du film. Donc c'est toujours ça que j'adore. J'adore en fait le moment de la naissance des idées, ce moment de ce début de réflexion, parce qu'on est complètement libre et où tout est possible. Et en fait, je ne pensais pas que ça marcherait, mais la guimbarde, ça mélangeait à des cordes, à des bassons, etc. Ça marchait super bien. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai l'idée des instruments dans les musiques de films. Là par exemple, je vais peut-être faire la musique sur un film, sur documentaire sur Jean-Paul Goude. Donc, on pense aux années 80, à ces rythmes un peu frénétiques, à tous ces sons de synthé. Donc là, ce sera une musique fortement très différente. Donc, comment on prend du recul par rapport à son travail ? Donc, peut-être des rythmes, des boîtes à rythmes ralenties, mises à l'envers pour montrer qu'on revient dans le temps, parler de son travail. Donc, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais ce sera certainement très différent de mes... Et c'est ça qui est passionnant. Et puis après, évidemment, discussion avec la réalisatrice, le réalisateur.
Mais après, je ne sais pas si tu vas entendre le... Donc là, tu vois, tu peux, par exemple,
La BO que je viens de composer, c'est sur Marie-Claude Van Couturier, dont le nom de jeune fille était Vogel, qui veut dire oiseau en allemand. Et donc, par exemple, je me suis dit comment... On pourrait traduire le mouvement, donc j'ai fait comme si c'était les deux ailes de l'oiseau, comme si les doigts faisaient les ailes, hop, en mouvement inverse. Et je suis parti de cette musique pour composer, en faisant une rythmique après, mais je suis vraiment parti de ce mouvement, comme si c'était vraiment un oiseau qui battait des ailes. Bon, juste pour montrer des méthodes de composition. Pour mes albums, c'est différent. Je viens de la pop, j'adore la pop anglaise, j'adore le jazz. Donc après, là, j'essaie toujours d'inventer, mais c'est vrai qu'il y a des mélanges qui me touchent parce que je les entends depuis tout petit. Une guitare folk avec un piano, c'est des sons qui me touchent. Ça, c'est inexplicable.
Singing to erosion. illusion waving in the sky in a silent film, a larger sun and vision.
Écoutez Web Radio, nous flottons avec Julien Ribaud, compositeur et artiste visuel. Et Julien, tu composes des musiques de films, tu as aussi travaillé avec d'autres artistes, d'autres chanteurs, tu as aussi eu des projets au théâtre ou dans des films de cinéma. Toi-même, tu as produit 4 albums, Hôtel Bocchi, je ne sais pas si ça se prononce bien.
Bocchi.
Hôtel Bocchi, ouais. Vega, La métamorphose de Caspar Dix, plus récemment de You Feel Nine. Oui. Et en écoutant tous tes albums, je me suis dit que tu aurais pu composer aussi la musique de Mars Attack de Tim Burton.
Oui.
Parce que dans les sonorités, j'ai l'impression que tu as une petite patte aussi de mettre des sonorités un peu extraterrestres ou qui évoquent un peu un autre univers, un autre monde, un peu style, ce que j'appelle moi si musical. Oui. Mais tu vois, ces petites sons,
le thérémine, c'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans la musique de Mars Attack. Donc Danny Elfman, qui est un compositeur que j'adore.
Qui a composé la bande originale de Mars Attack.
Voilà, et de énormément de films de Tim Burton et de plein d'autres films, et son parcours est assez génial parce que très atypique, et c'est un parcours qui donne confiance aussi énormément parce que lui il vient de la pop aussi, d'un groupe des années 80 et il est très marrant. Et puis il parle avec une grande humilité du fait qu'il n'était pas vraiment musicien, qu'il a énormément travaillé et qu'il n'y croyait pas trop. Sa première BO, c'est je crois Pee-wee. Avec Tim Burton justement et il a fait ça un petit peu au départ, il a refusé en disant je serais jamais capable de faire ça, et puis finalement il y a une anecdote assez marrante où son producteur l'a dit ok, t'es pas capable de faire ça, appelle le réalisateur pour lui dire toi-même. Et en fait, il n'a jamais osé l'appeler, et finalement il a fait la BO, et finalement la production a trouvé ça génial. Et puis lui, j'aime énormément Danny Elfman. Effectivement, les sons de Terre et Mine, un exemple intéressant, parce que j'ai failli l'utiliser dans la dernière BO d'un documentaire que je suis en train de faire sur Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était une résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et le Terre et Mine, j'ai pensé à un moment donné au Terre et Mine parce que j'ai trouvé ça intéressant. Il était par rapport au communisme. Donc c'est un instrument qui a été créé en Russie par un Russe, Léon Terre et Mine, dans les années 20. Ça m'intéressait par rapport au stalinisme.
Il est comment cet instrument ?
C'est un instrument qu'on ne touche pas et c'est juste une antenne, comme une antenne radio. Et en fait, plus on s'approche de la main, plus le son va être fort. Enfin, il y a deux antennes, en fait, et le son va être aigu, etc. C'est très mystérieux, c'est très, très étrange. C'est un peu comme... Et donc, ça fait un son... C'est très dur à en jouer parce qu'il faut vraiment être très, extrêmement précis. Et sauf que comme cet instrument a été justement très utilisé dans les films de science-fiction... C'est
tout de suite on l'associe à une soucoupe spatiale.
Et en fait, je trouvais que conceptuellement c'était intéressant d'utiliser cet instrument inventé par un Russe, etc., par rapport au thème du film, au communisme, etc., au stalinisme dont on parle beaucoup dans le documentaire, mais trop connaître, justement trop utilisé dans les films de science-fiction des années 50, 60 et puis plus récemment avec Mars Attacks, etc.
Et ton univers quand même musical est inspiré de ce type de compositeur ou d'ambiance, d'atmosphère. Et quand on écoute tes compositions, tu arrives à nous entraîner dans un univers un peu extraterrestre. Et c'est une musique en même temps très lumineuse, très joyeuse, très gaie. Je ne sais pas si c'est plus difficile de composer de la musique gaie que de la musique triste ou mélancolique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gaieté, je trouve, dans ta musique.
Peut-être un corps bondi dans chaque écorché vif, il y a un clown ou vice-versa. Non, j'essaye de j'essaye, ouais, je sais, ça c'est, je suis positif, quoi. J'essaye d'aller vers le bonheur, vers le... Je trouve qu'on a un devoir d'amener de la joie et de la liberté. En fait, je trouve que le rôle de l'artiste, c'est de montrer aux gens qu'ils sont libres. En fait, pour moi, le rôle de l'art, c'est... Je ne sais plus quel chef d'orchestre... l'autre fois, j'entendais une interview qui parlait de ça, et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que l'art, qu'est-ce que c'est l'art ? C'est de montrer aux gens qu'ils sont libres, en fait. C'est pour ça que dans les dictatures, personne que moi en prison, ça va être les gens de théâtre, les poètes, les artistes, etc. Parce que c'est eux qui montrent aux gens qu'ils sont libres, qu'ils peuvent penser différemment, etc. Donc, pour moi, voilà, le rôle d'un artiste, c'est montrer aux gens qu'ils sont libres, ça peut que se traduire par le bonheur, la joie qui émane du monde et la beauté qui nous entoure aussi, et de montrer que les choses sont possibles. Il y a une phrase de Jodorowsky que j'aime beaucoup, qui est un artiste, qui est un modèle, et en fait qui dit « on ne peut pas changer le monde tout seul, mais on peut commencer à le changer ». Et je trouve cette phrase merveilleuse parce qu'on peut souvent être abattu en se disant « oh là là, le monde est épouvantable, il y a tellement de choses à faire, faudrait tout ». Et en fait, juste de se dire « non, on peut commencer à le changer. On peut toujours commencer à changer les choses. » Et je trouve ça, c'est une phrase absolument merveilleuse parce que c'est... Faut absolument arriver à partager un enthousiasme et à être... Ce qui n'empêche pas d'être révolté, d'être tout le temps dans le questionnement, de se poser des questions et d'être écœuré de mille choses. Donc oui, le côté lumineux, je le revendique à mort.
Et quelquefois aussi, pour qualifier ta musique, j'ai lu des articles qui parlaient de pop psychédélique ou de pop baroque. Tu te reconnais aussi dans ces termes ?
Oui, baroque parce que des fois il y a des instruments, le clavecin peut-être, des cordes. Après le psychédélisme, oui, alors j'ai travaillé à un moment donné avec une amie que je cite parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, Isabelle Caparros, qui m'a beaucoup aidé à conceptualiser mes pensées. Et en fait, on a regardé la définition du psychédélisme qui est hyper intéressante parce qu'en fait, ça veut dire révéler les âmes, révéler l'âme. Et c'est pas juste psychédélique, on prend des drogues et puis on délire. Et je trouve que le thème de révéler les âmes, c'est hyper beau parce que c'est exactement, ça rejoint le fait de montrer où est la liberté, que on révèle l'essence des choses, ce qui est dans les personnes, même dans les objets, dans la nature, etc. Et de ce mot de révélation, de révéler, je trouve ça hyper beau parce que souvent on vit un petit peu en mode zombie, moi aussi, enfin tout le monde, on est, voilà, la vie nous prend parfois et en fait toujours avoir conscience d'être émerveillé. Je connais des gens qui ont vécu des choses absolument épouvantables dans leur vie et qui, malgré tout, arrivent à garder un émerveillement au monde et à se prendre du plaisir et qui pourtant... voilà. Moi, je l'ai vu, par exemple, un exemple très concret. J'ai fait avec la mairie de Paris, j'ai travaillé pour un dispositif qui s'appelle L'Art pour Grandir. Donc, je suis allé dans une ZEB.
L'Art pour Grandir,
voilà. Donc, dans le 18e arrondissement, une ZEB, donc des gamins, des petits sixièmes qui avaient tous des vies épouvantables. Et en fait, on voyait qu'ils avaient un besoin, justement, d'émerveillement. On dit souvent, on peut avoir tendance à penser que l'art est réservé. Et ça, c'est un truc que je combats...
Une
sorte d'élite qui a le temps de réfléchir, de penser que bah, les gens qui n'ont pas d'argent, déjà il faut qu'ils trouvent à manger, etc. Et en fait, c'est exactement l'inverse que j'ai vu sous mes yeux, c'est-à-dire que tous ces gosses qui venaient de milieux défavorisés avaient un besoin de s'exprimer, mais viscéral, c'est-à-dire vraiment, je m'exprime donc je suis. C'est l'être humain, s'il ne peut plus s'exprimer, il meurt.
I am sad and lonely. Nobody seems to notice me. Darkness all around me. Day after day I disappear. Hey, you know that we really love you, baby. Hey, you know that the world belongs to you, baby. What's my destination? I feel I'm in the fourth dimension. I'm lost in the city. There's a wall between people. Now I'm
take your hand. Now I'm in Wonderland. I want to take your hand.
Et You Know Wonderland de Julien Ribaud. Sur Web Radio avec Julien Ribaud, compositeur et artiste visuel. Et Julien, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton projet Fantasy from Zygote,
oui.
Qui parle d'œufs fécondés.
Oui. Ah
ouais. Et je trouve que le thème de l'œuf se retrouve aussi dans ton travail, parce mm-hmm. qu'il y a aussi dans Do You Feel Nine,
oui.
un clip où on voit un œuf au
oui.
début.
Oui, cet œuf, d'où ça vient, effectivement. Et dans le film que je suis en train de faire aussi, c'est un projet qui a été initié par une amie qui est chercheuse à l'Institut Pasteur. Et donc, c'était une commande, en fait, à la base de l'Institut de la Biologie du Développement, la Société de la Biologie du Développement. J'ai travaillé à partir d'images de scientifiques français et japonais. Et en fait, ils m'ont commandé une œuvre pour parler du zygote. Le zygote, c'est notre première cellule fécondée, qui existe aussi pour les plantes. Et à partir de là, j'ai imaginé... c'était aussi un vidéomapping. Donc j'aime bien, moi, mélanger toujours animation et musique. Et là, ils m'ont commandé cette œuvre. Et donc, c'était prétexte. J'ai eu l'idée de parler de ce zygote, notre première cellule fécondée, mais comme si elle avait des pensées un peu philosophiques. Et de cet œuf, effectivement, d'où on vient tous... Ce rapport entre science et art aussi me plaît beaucoup. Et
pour oui, moi, parce que tu as récupéré des images de laboratoire.
Voilà.
Oui,
de laboratoire. Qu'après, alors, ils étaient morts de rire, les scientifiques, en voyant ce que j'avais fait avec leurs images, qu'évidemment, ils manipulent d'une manière complètement autre. Mais moi, je les avais assemblés pour faire des personnages. Et donc, cette petite cellule zygote se pose des questions. Qui je vais devenir? Est-ce que j'aurai des nageoires? Est-ce que j'aurai... à la place, est-ce que j'aurai des mains, est-ce que je vais être une plante, est-ce que je vais être un être humain, un animal, etc., etc. Et c'était prétexte à parler de notre humanité et des questions qu'on se pose. Par exemple, il y a des cellules qui sont destinées à mourir. Par exemple, les cellules entre nos doigts sont programmées pour mourir, pour que les doigts puissent se former. À la place, au départ, on a des moufles, et une sorte de moufles. Et en fait, voilà, ces cellules qui se disent « mais j'ai pas envie de mourir », donc c'est prétexte à parler de la mort. Des cellules qui s'endorment, qui attendent d'être éveillées, d'être mises en action, comme nos muscles, etc. Donc ça parle de ces prétextes à parler du sommeil, de le patterning aussi, qui est prétexte à parler de... Donc patterning, c'est un motif qui va se répéter sur le pelage des animaux, tout ça, mais c'est prétexte à parler de la diversité des humains, de nos caractères différents, etc. Mais en fait, après, voilà, tout ça, et c'est en train de devenir le prochain album sûrement aussi, de Fantasy from a Zygote, voilà.
Et dans ton album Do You Feel Nine, il trouve le thème de l'œuf. Il y a aussi peut-être une réflexion parallèle qui s'est faite aussi à ce moment-là.
En écrivant les paroles de l'album et en regroupant un peu les morceaux, j'ai travaillé avec un ami qui s'appelle Joseph Holk, que je salue ici, qui était un peu justement un révélateur. Donc c'est parti de Do You Feel Nine, un peu d'un jeu de mots, avec le chiffre 9, l'œuf. Moi j'aime beaucoup dans travailler, avoir une pensée un peu ce qu'on appelle un peu rhizomique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la pensée. J'aime beaucoup, pour moi, l'anecdotique ou le jeu de mots ou le...
C'est une pensée en lien.
Ouais, voilà, en lien. Et en fait, ça ne me dérange pas de lier un jeu de mots avec quelque chose de beaucoup plus profond, une pensée plus métaphysique, plus philosophique, etc. J'essaye de pas mettre de... C'est une pensée peut-être aussi un peu anarchiste, finalement. Enfin, anarchiste dans... Pas le sens...
Sans jugement, presque, voilà. En fait.
Ouais, mmh. Ouais.
Et Julien, tu as aussi expérimenté des projections visuelles à l'extérieur, sur des monuments, dans les Nuits Blanches. Pourquoi tu vas aussi sur ces projets-là, de mettre aussi des sons et des couleurs sur la ville?
Alors ça, c'est parti. Alors, à la base, c'est pas mon idée. Pour la première Nuit Blanche, c'était un lieu qui m'a demandé, qui allait ouvrir, et d'ailleurs c'est parti de là un peu la notion de l'œuf. C'est un lieu qui allait ouvrir, qui s'appelle le Hasard Ludique, qui était une ancienne gare de la Petite Ceinture, et qui,
oui, qui est à Paris.
Voilà, qui est à Paris dans le 18e, et ils m'ont demandé de créer une œuvre un peu totale avec une projection. Ils savaient que je dessinais, que je faisais des... et musical. Donc c'était la première fois que je faisais et un concert synchronisé avec une projection, et ça m'a énormément plu. Et comme ce lieu allait ouvrir, évidemment, c'était toute une notion autour de l'éclosion, du chiffre 9. J'avais un morceau qui s'appelait Do You Feel 9, et donc le chiffre 9 qui est la symbolique, évidemment, la gestation, les 9 mois, mais c'est aussi la forme de l'oreille, la forme d'un fœtus, la forme de... etc. Donc ce chiffre 9 m'a énormément plu, et je me suis beaucoup amusé avec cette symbolique. Et c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que c'est quand ils m'ont proposé de faire ça, je me suis dit, mais pourquoi j'osais pas? C'est pour dire à nos auditrices, auditeurs, de toujours être prétentieux dans le bon sens du terme. La prétention, c'est ce que disait Brian Eno, c'est en fait, c'est, il faut le voir aussi comme une qualité, c'est-à-dire prétendre à des choses que les autres vous disent que a priori vous n'avez pas le droit de faire. Et prétendre à quelque chose, c'est ça aussi le rôle de l'artiste, parce que l'artiste, l'art, c'est un domaine où finalement, voilà, on n'est pas au bord d'une falaise et on risque pas vraiment notre peau. Mais par contre, justement, autant prendre des risques et autant voilà, être dans cet endroit un petit peu inconfortable et en fait toujours voilà, pas hésiter à rêver et à faire, surtout faire ce qu'on nous dit de pas faire. Quoi. C'est...
Faut écouter son intuition.
Son intuition, voilà. Ouais. Ouais.
Merci Julien de nous partager toute cette envie de créer, d'être audacieux.
Ouais, ouais, ouais.
Pour suivre du coup tous tes projets, tes actualités, on suit ça comment? Sur internet, sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, j'essaye d'actualiser dans mon temps, mais ça prend beaucoup de temps. Instagram.
C'est Julien Ribot.
Julien Ribot, R-I-B-O-T, voilà.
Merci beaucoup Julien.
Je t'en prie Aline, avec grand plaisir.
Et je rappelle que vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site internet de Web Radio, webradio.fm. À très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons. Fine, but you feel inside. Carolers.
This is my home. This is my home. This is my home.